tout de suite sur MDM. Les Landes, c'est ma nature. L'environnement dans notre région. Avec Jeanne-Marie et Marie-Claire. Les Landes, c'est ma nature.
Bonjour, nous sommes près de Saint-Sevé à la ferme Bacotte chez Clément Baillet et Marie Fischer et ils vont nous dire comment ils en sont arrivés au concept d'agriculture poétique et ce qu'ils font.
Donc bonjour, moi je m'appelle Marie Fischer, j'ai 27 ans, je suis arrivée dans les Landes il y a maintenant 3 ans. J'ai fait d'abord un BTS agricole gestion compta. Pendant 2 ans, j'étais en apprentissage dans les chèvres, dans les Vosges. Et ensuite, j'ai atterri en Bourgogne où je suis restée pendant 4 ans avant de rencontrer Clément. Donc, je travaillais un petit peu pour l'association de la chèvre de Lorraine. Et quand j'ai rencontré Clément, qui travaillait pour l'association de la chèvre des Pyrénées, c'était au Centre de l'agriculture en 2015. Et depuis, on a repris la ferme Bacotte. Tous les deux.
Bonjour, donc moi je suis Clément Baillet, donc l'associé de Marie. Moi je me suis installé, moi je suis un natif de Saint-Sevé et je me suis installé sur donc la ferme de mes grands-parents depuis 2010. Le projet a évolué depuis l'installation. Donc on s'est tourné vers la transformation fromagère et l'élevage de porc gascon en plein air quand Marie m'a rejoint en 2015. Moi aussi, j'avais un parcours agricole dès le départ. Pas à vocation de m'installer, c'est arrivé un petit peu par hasard. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun regret. Au contraire, c'est vraiment assez exaltant comme activité.
Alors, nous avons discuté un petit peu avant l'émission et vous nous avez parlé de vos voyages. Que vous ont-ils notamment appris ?
J'ai essentiellement voyagé pour mon travail, puisqu'au départ, j'étais double actif dans l'agricole. Donc j'ai travaillé pour des coopératives locales, donc dans la filière agricole. Qu'est-ce qu'ils m'ont appris? Essentiellement ce que je n'avais jamais envie de faire de ma vie dans l'agricole. Ils m'ont vraiment orienté dans un mode de fonctionnement et une installation un peu atypique, on va dire, pour les institutions classiques, mais qui, moi, me correspondait mieux. Notamment en termes d'autonomie, en termes de liberté de choix, de production, de produits, de terroir, de qualité, de tas de choses comme ça. Enfin, tout ce que j'ai pu faire avant ne correspondait pas franchement à ce que je fais aujourd'hui et à ce que j'avais envie de faire.
Alors que faites-vous exactement sur cette exploitation ?
Alors on a une centaine de chèvres, donc des Pyrénéennes et des Lorraines, en plein air intégral. On transforme tout le lait qu'elles produisent, 9 mois par an à peu près. On a un petit local de transformation qu'on a aménagé en 2016, je crois. Et après, on vend tout en vente directe à notre magasin de producteurs La Tout Fermier qui est à Saint-Sevé, sur des marchés et à des crémiers de la côte, par exemple.
Et ensuite, on a un deuxième atelier qui est un atelier de porc noir en plein air qu'on fait naître chez nous et qu'on engraisse 16 mois en plein air à vocation de transformation directe en frais, en charcuterie et tout le bazar pour le magasin de producteurs qu'on a monté à Saint-Sevé qui s'appelle donc La Tout Fermier pour tous les gens qui connaissent un petit peu le coin.
Alors, vous allez nous parler dans la seconde partie de l'association dont vous vous occupez, donc qui est une association autour des chèvres des Pyrénées. Mais quand vous avez parlé des porcs noirs, ce sont des porcs landais. Les porcs d'aujourd'hui, ce sont des porcs qui sont clonés. Clonés, standardisés. D'accord. Voilà. Et les porcs noirs, non. Ce sont les porcs locaux.
En fait, ce qu'il y a, c'est que donc nous, on a, depuis le tout départ de mon installation, on a vraiment un combat qui est un petit peu un combat militant autour des races locales, c'est-à-dire que tous les animaux qui sont présents sur l'exploitation sont des races locales pour des raisons simples de meilleure adaptation au milieu ambiant et à notre mode d'élevage et à notre mode de travail. Donc ça va des poules gasconnes aux vaches bordelaises en passant par la chèvre des Pyrénées. Les chèvres de Lorraine sont un peu moins locales, mais ils avaient quand même besoin d'un petit coup de main. Et donc le porc, c'est pas compliqué. Il y a un porc qui est extrêmement représenté, on va dire à peu près sur très grossièrement, la Grande Gascogne, c'est donc le port gascon. De ce port gascon, il est dérivé, bien sûr, le port noir de Bigorre, qui est l'appellation commerciale qu'ils ont créée dans le secteur de la Bigorre. Mais la seule race existante de porc, c'est donc le porc gascon. Donc ces animaux, ce sont des porcs qu'on dit coureurs et pâtureurs, c'est-à-dire que c'est des animaux qui ont besoin de se déplacer et de trouver leur nourriture tout seul. Donc évidemment, l'élevage est plus long, puisque comme ils se déplacent beaucoup, ils dépensent plus d'énergie, donc ils profitent moins vite. C'est des porcs à croissance lente. Par contre, au bout de 16 mois d'élevage, la qualité du produit est très différente et optimum.
Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept d'agriculture poétique, puisque c'est ce qui caractérise vos activités?
Donc en fait, l'agriculture poétique, c'est né d'un constat un peu simple et plutôt humoristique au départ. C'est que, si vous voulez, quand on s'installe dans les Landes avec autre chose que des canards et du maïs, on est vite reclassé par la ruralité, si je peux me permettre le terme. On est vite reclassé dans les poètes, les hippies, les gens de Florette, tout ça. Donc pour faire vraiment un clin d'œil humoristique, vraiment le fondement de l'agriculture poétique, c'était ça. C'était de créer un petit logo qui était un clin d'œil vraiment d'humour gascon à tous nos voisins ici du secteur. Et comme c'est quelque chose qui a vraiment bien pris et où les gens étaient en demande qu'on aille un petit peu plus loin, on a créé une association pour pouvoir mettre en réseau d'autres gens qui nous demandaient de devenir producteurs de l'agriculture poétique.
Alors, on va en parler dans le deuxième volet, mais en attendant, vous allez nous présenter la première chanson que vous avez choisie, puisque vous êtes musicien, alors expliquez-nous tout ça.
Alors, moi, sans chauvinisme, on a quand même un groupe local pour rester dans les activités locales, qui s'appelle Slokeai. On est pas mal basé autour de Saint-Sevé. On va pas dire qu'on a une petite notoriété locale, mais tout de même, on a eu l'occasion de se produire dans de chouettes endroits avec des compositions et tout ça. On est vraiment une troupe de copains et un bon groupe d'amis. Donc si vous voulez, je vous propose d'écouter un morceau du dernier album qu'on a fait qui s'appelle La Mèche et la chanson s'appelle Plasticos.
MDM. Tout un monde.
Nous sommes dans la ferme Bacotte, près de Saint-Sevé, où nous avons rencontré Clément Baillet et Marie Fischer, qui sont à l'origine du concept d'agriculture poétique. Et ils vont nous en parler maintenant, ainsi que d'une autre association qu'ils ont créée et dont ils s'occupent activement. Alors, Marie ?
Alors, on a créé cette association l'année dernière suite à plusieurs demandes. En fait, on était un peu surpris, mais en parlant de ce concept, il y a plein de gens qui s'y sont reconnus et qui ont envie de nous rejoindre. Du coup, on est maintenant 6 membres fondateurs. Donc, il y en a de Lorraine jusque dans les Alpes. Il y en a, enfin, principalement quand même dans le sud-ouest, mais il y en a un peu partout. Donc on gère ça avec Margot, notre super webmaster multicasquette, et on essaye d'animer ce réseau qui est vraiment tout jeune. Le but, c'est peut-être de se mettre en relation, parce que on se rend compte que on se reconnaît pas dans les réseaux, par exemple agriculture biologique ou des réseaux de commercialisation un peu plus classiques, on va dire. Et du coup, on se retrouve un peu tous tout seuls dans notre coin à faire des choses, et ce réseau, il nous permettra peut-être d'échanger sur nos valeurs et nos envies.
Pourquoi est-ce que vous ne vous retrouvez pas dans les réseaux culture biologique?
Parce que pour moi, aujourd'hui, l'agriculture biologique est à la base quelque chose de très éthique et bien, avec des valeurs de respect de l'environnement, du bien-être animal, mais aussi des gens qui travaillent en agriculture biologique. Pour moi, c'est devenu juste du capitalisme vert.
Alors là, vous parlez de ce qu'on appelle l'agriculture biologique intensive, mais nous avons rencontré énormément de gens qui pratiquent une agriculture biologique ou de l'élevage biologique tout à fait dans un respect éthique, et ce n'est pas effectivement à confondre avec les grandes exploitations où on utilise des migrants ou des saisonniers. Donc il y a une dérive effectivement d'une certaine partie de la culture biologique, mais nous sommes promenés dans les Landes, nous avons rencontré des gens qui font très très bien leur travail. Il ne faut pas penser, enfin, tout n'est pas à mettre dans le même sac.
Non, mais pas du tout. Hein. C'est certain qu'il y a des gens qui travaillent très bien. Hein. Et pour le consommateur, c'est vraiment quelque chose de reconnaissable, l'agriculture biologique. C'est juste que du coup, nous, on n'a pas envie de s'engouffrer dans ça. Et c'est aussi que ça a un coût. Et qu'on estime que devoir payer pour être contrôlé qu'on travaille bien, c'est peut-être pas très normal quand il y a des gens qui travaillent en conventionnel et qui sont sponsorisés par la PAC et par tout un système qui est, c'est pas vraiment du bon sens pour nous.
Alors, en ce qui concerne pour l'association des chèvres des Pyrénées.
L'association de la chèvre des Pyrénées, c'est une association qui existe depuis, alors je parle pas sous contrôle d'huissier, mais je crois que c'est précisément 2004, et aujourd'hui c'est une association qui fédère sur le massif pyrénéen, c'est-à-dire très grossièrement de Perpignan à Bayonne, à peu près 200 éleveurs qui sont soit professionnels, soit amateurs, puisque dans une race locale, c'est reste quand même des activités qui sont à développer, avec du travail de génétique, de variabilité génétique, ainsi que de réouverture des populations et tout ça, qui sont vraiment un petit peu des combats difficiles à mener, du fait qu'il y a peu d'animaux. Donc là, on a à peu près un effectif aujourd'hui de 4000 animaux. Donc dans ces gens qu'on considère comme des éleveurs, hein, et c'est pas du tout un gros mot pour eux, hein, il y a aussi des gens qui font de la conservation pour le plaisir, et des gens qui ont 4 ou 5 chèvres chez eux pour entretenir un parc et tout ça. Donc tous ces gens sont aussi importants que des éleveurs qui ont 200 chèvres ou comme nous une centaine. Ça permet d'augmenter le brassage génétique, etc., etc. Donc cette association a la vocation à... C'est une association qui... On travaille en partenariat beaucoup avec l'Institut de l'élevage et avec notre organisme de sélection Caprin en français, dans lequel toutes les races caprines sont regroupées. Et cette association, elle a pour mission, j'ai envie de dire un peu officielle de l'État, de recenser toute la génétique, toutes les parentés, tous les animaux, de pouvoir aussi mettre à disposition des éleveurs du contrôle de performance. Alors j'entends par là, on est loin de l'industrialisation, hein, de la filière, hein, mais notamment on donne accès aux éleveurs au contrôle laitier. Qui permettent de peser le lait des animaux, de tester la matière utile du lait, à savoir la matière grasse, le taux de protéines, etc., etc. Donc tous ces outils sont gérés par l'association. Donc on a une animatrice, on a la chance d'avoir une animatrice qui travaille pour ça et qui fait beaucoup de visites d'élevage et qui recense les animaux, les éleveurs, et ça permet vraiment de se mettre très facilement en réseau pour échanger, et ça c'est très très important, c'est aussi un réseau social très important.
Quelles sont les caractéristiques des différentes races caprines en France ?
Alors si vous voulez les races caprines de France, je crois que sans me tromper aujourd'hui, des races officiellement reconnues, il y en a 7. Il y a notamment la chèvre des... Je vous les passe très brièvement, mais il y a la chèvre du Rove, la chèvre des Fossés, la chèvre Potevine, la chèvre du Massif Central, la chèvre de Lorraine, la chèvre des Pyrénées et la chèvre provençale. Et je pense que je n'en oublie pas pour les races officiellement reconnues. Les caractéristiques de ces races, ben c'est qu'évidemment, elles ont été abandonnées au moment de l'industrialisation de l'agriculture. On a laissé de côté les critères de rusticité et d'animaux adaptés pour faire des chèvres beaucoup plus productives, donc représentées essentiellement par deux races en France qui sont la chèvre alpine et la chèvre sanenne. Donc ces filières industrielles ont fait complètement ou quasiment complètement disparaître tous ces animaux à l'heure où l'agriculture a essayé de se passer aussi du pastoralisme, ou c'est au moins détaché, pas essayer de se passer, mais c'est au moins détaché du pastoralisme, de l'entretien du milieu, notamment la chèvre du Rove, ils œuvrent énormément pour l'entretien de la garrigue autour de Marseille contre les incendies et tout ça. La chèvre des Pyrénées, c'était vraiment une chèvre meneuse dans les troupeaux qui servait à transhumer plus facilement. C'est valable pour d'autres races. La chèvre de Lorraine, c'était plutôt une chèvre, on va dire, on appelait chèvre commune ou chèvre pays local qui a été identifiée. Ils sont passés à ras de l'extinction, ils ont sauvé la race, il restait 50 animaux. C'est extrêmement peu pour redémarrer une situation fiable et viable, j'ai envie de dire. Voilà, on est à peu près tous dans les mêmes combats sur les 7 races d'animaux qu'on défend.
Alors, on va continuer cette conversation, mais voilà, c'est le moment de notre intermède musical. Que nous proposez-vous ?
Alors, on vous propose la musique Terro Terro de la Flor del Fango, qui nous rappelle à tous les deux un super souvenir, puisque c'était pendant très très longtemps la sonnerie du téléphone de Clément.
Gardez les yeux ouverts, MDM s'occupe de vos oreilles.
Bollitos de rosa. Buenos días, primavera. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buen viaje, ya me he ido y estoy listo para cantar. Yo te quiero, vida mía. Sos tan linda bajo el sol, de la montaña al lago, entre ríos bien quebrados.
Bandurria, tero tero, bandurria, tero tero. Río Foyel, está la civilización,
está la civilización.
Yo sé que un día llegará,
ay, que un día llegará,
hasta el último rincón.
Uy,
holgadito de las nubes,
holgadito de las nubes,
allá en el cerro fumador,
allá en el cerro fumador,
arroz, trigo y otras hierbas.
Uy,
en el pueblo del Bolsón.
Cuando vienes hacia mí, solcito de mis mañanas, tú me trepo a mi ventana, me olvido de mis problemas. Cuando vienes hacia mí, solcito de mis mañanas, una junta de caballos en un valle del Mallín. Bandurria, tero tero.
Bandurria, 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 que sea.
nous sommes toujours à la ferme Bacotte, près de Saint-Sevé, chez Clément et Marie, et qui vont maintenant nous expliquer comment ils élèvent leurs animaux et quels sont leurs projets.
Donc sur l'élevage des animaux, en fait, bon, on pourrait y passer la journée, bien évidemment, hein, mais on va essayer d'être un peu plus concis. Pour l'atelier caprin, par exemple, on est dans un système plutôt qu'on pourrait appeler grand pastoral, c'est-à-dire avec des animaux qui sont dehors toute l'année, avec une très faible complémentation, juste de quoi les faire passer au quai un peu pour les appâter, et ensuite on les sort tous les jours, on garde ces animaux avec un chien, un bâton, enfin comme tout ce qui peut se faire de plus normal. Malheureusement, c'est plus vraiment normal, mais ça devrait l'être, en tout cas. Donc ces animaux sortent tous les jours, en fonction de la saison, ils sortent entre 2h30 et 4h, en fonction de la période, bien évidemment, et de ce qu'il y a à manger. Et ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet d'abord de réellement valoriser du terroir, c'est-à-dire que pour faire un produit de terroir, il faut quand même que les animaux mangent le terroir. S'ils ne le mangent pas, ça me semble un peu compromis. La deuxième chose, c'est pouvoir faire aussi, comme il se faisait un peu à l'ancienne depuis toujours dans les Landes, de l'agro-silvopastoralisme. Je ne sais pas si ce terme vous parle, mais l'objectif, c'est vraiment de faire de l'entretien de milieux. Donc nous, on se concentre uniquement sur la valorisation de zones délaissées par les autres, ce qui nous permet de ne pas nous mettre en concurrence avec trop de voisins. Donc on pâture des couverts végétaux, des jachères, des sous-bois. On a des partenariats de pâture avec le conseil général, avec la commune. En fait, l'objectif, c'est que tout le monde puisse être gagnant. Nous, on entretient, j'ai envie de dire, gratos, des milieux du conseil général, des zones de débordement de la Dour, etc. En contrepartie, on produit du fromage dessus et en contrepartie, eux, ils n'ont plus aucun entretien mécanique à y faire. Tout ça, ça se fait quand même à coup d'argent public. Donc des fois, ça vaut quand même le coup d'y réfléchir et de se dire, punaise, ça peut être fait par des animaux. Ça rend service à des gens qui s'installent. Voilà, ce modèle, je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment duplicable. Donc ça, c'est vraiment pour la partie caprine. C'est un petit peu résumé, mais ça se passe à peu près comme ça. Ensuite, pour les porcs qui sont en plein air, eux, on est obligé de les complémenter parce que vous imaginez bien que quand on met sur une vingtaine d'hectares 80 porcs, ils ne peuvent pas suffisamment trouver de nourriture, même s'ils sont sous les chaînes et tout le bazar toute l'année. Donc on les complémente avec des céréales qu'un voisin nous produit. On les complémente quotidiennement de manière à ce qu'ils se développent le mieux possible. Mais l'objectif étant en permanence de ne pas faire de forçage à l'engraissement. C'est-à-dire que c'est des animaux qui grandissent lentement. L'objectif de cette croissance lente aussi, en fait, c'est des races dans lesquelles il y a beaucoup de gras intramusculaire, ce qui amène un persillé et un goût à la viande qui, pour moi, est un petit peu quand même inimitable, hein, puisque bon, nous, on est quand même assez mal habitués, puisqu'on mange que ce cochon, donc on a un peu de mal à comparer avec le reste, mais on n'a pas trop envie d'en changer. Et je dirais que dans l'ensemble des retours qu'on a dans notre magasin et tout ça, tous les gens qui ont goûté, il n'y en a pas beaucoup qui repartent manger du porc indus, quoi. Voilà, et donc on est quand même très attaché en permanence aux conditions d'élevage, c'est-à-dire que les cochons, on ne leur coupe pas la queue, on ne leur coupe pas les dents, tout ça c'est du pipeau et de la foutaise de bien-être d'animaux enfermés en fait, et d'animaux industriels, c'est-à-dire que pour le bien-être d'un cochon qui a 1 mètre carré dans une loge en ciment pendant 5 mois, on est obligé de lui couper les dents et de lui couper la queue, sinon ils se mutilent, ils deviennent cannibales, mais c'est, j'ai envie de dire, un petit peu forcé. Vous pouvez venir les voir dehors, vous allez vite vous apercevoir que le cochon, c'est quand même un animal qui est fait pour se promener dehors. Voilà à peu près pour les modes d'élevage des animaux chez nous.
Alors à présent, c'est l'heure de parler des projets. Vous en avez quelques-uns, je crois.
Alors, il y a déjà la biennale de ce qu'on a appelé le Sommet mondial de la paix, qui est une rencontre qui a lieu tous les 2 ans, où on invite les gens à venir chez nous pour parler de ce qu'on fait.
Vous précisez la paix?
C'est l'agriculture poétique, c'est l'abréviation, c'est un petit jeu de mots. Voilà. Et donc on appelait ça Sommet mondial de la paix. Voilà. Et ça aura lieu donc l'année prochaine. A priori, pas chez nous, parce que ça fait déjà 2 fois de suite, mais chez des amis qui sont dans l'Aude. Voilà, Claudine et Stéphane Poissy.
Donc voilà un premier projet à l'horizon 2021, 2020 plutôt, 2020. Et ensuite, vous avez, vous, des projets locaux.
Alors déjà, on a d'autres gens qui veulent postuler pour l'écriture poétique. Donc déjà, il faudrait qu'on s'occupe un peu de ces gens-là. Et après, nous, personnellement, on a récupéré deux vaches bordelaises en partenariat avec le Conservatoire des races d'Aquitaine. Et on aimerait bien, l'année prochaine, lancer une petite transformation de lait de vache, peut-être pour notre magasin.
Combien y a-t-il d'autres éleveurs dans votre réseau agriculture poétique en ce qui concerne les Landes?
Alors dans les Landes, il n'y a que nous. Hein.
Alors ça, c'est un peu triste. Hein. Donc, s'il y en a d'autres qui écoutent l'émission, eh bien qu'ils contactent Clément et Marie, n'est-ce pas?
Et en fait, dans l'agriculture poétique, on accorde une part très très importante au volet un petit peu social. Donc je m'explique tout de suite. C'est vraiment dans l'aspect transmission. Parce que nous, si vous voulez, l'objectif de notre travail, on va dire que nous, on est à peu près à notre rythme de croisière. On n'a aucun objectif de développement. Notre seul objectif, c'est de développement. La pérennisation de l'entreprise, bien évidemment, fait de l'exploitation aussi. Mais il n'y aura jamais 500 chèvres chez nous, 3000 cochons, ni rien. Ce n'est pas du tout l'objectif. Notre objectif, c'est de vivre de notre travail décemment, bien évidemment. Et surtout, de pouvoir dire à plein d'autres gens qui viennent en stage chez nous, comme par exemple Camille en ce moment, de pouvoir leur dire, mais installez-vous, il y a plein de places. Voilà comment nous, on peut le faire ici, parce que c'est adapté à tel territoire, à tel endroit, à tel mode d'élevage. Il faut bien sûr bien réfléchir le projet en fonction de comment on a envie de le faire et à quel endroit et tout le toutim. Donc nous, on est vraiment très attachés à recevoir des gens et à les former et à pouvoir leur remettre le pied à l'étrier dans un mode de fonctionnement différent, on va dire, de la filière d'installation conventionnelle. Et à ça, on a aussi envie, et on a déjà travaillé pas mal, avec des structures genre des ITEP ou des structures d'accueil d'enfants qui sont placés ou des choses comme ça, pour faire un petit peu de pédagogie, pouvoir les recevoir, recréer du lien avec les animaux, etc., etc. Ça a vraiment de très très bons résultats sur les gens. Les animaux, vraiment, c'est un super facteur de médiateur dans la reprise, dans le lien social, dans la... Voilà. Donc si on peut participer à notre petite échelle à faire ça, ça serait super.
Vous recevez d'ailleurs des visites assez régulièrement, il me semble.
Oui, on reçoit quand même des visites parce qu'on est toujours en réseau, du coup, avec le Conseil Général sur un petit peu pas mal d'institutions qu'ils ont, avec notamment tous les IFEDER, pas mal de clubs de troisième âge. On a souvent des demandes pour recevoir aussi des instituts comme Majora ou des instituts comme ça. Nous, la contrainte, c'est qu'on a quand même besoin d'améliorer notre outil pour qu'il soit suffisamment, on va dire, sécurisé pour l'accueil de ces gens, parce qu'il y a quand même, on est quand même sur une exploitation, il peut y avoir des dangers, il faut pas exagérer, hein, on n'élève pas des loups, hein, mais ni des ours, mais il faut quand même que la structure puisse correctement accueillir ces gens. Et enfin, je voudrais aussi quelque chose qu'on a un peu omis, qui pour nous est très important, c'est qu'on participe depuis la création au réseau agri-local. Je pense que vous l'avez peut-être déjà évoqué dans des sujets précédents, qui est un réseau de distribution de produits fermiers à vocation des appels d'offres publics du département. Donc j'entends pour les cantines, les EHPAD, la base aérienne. On travaille avec ces gens et on est vraiment très content de participer à ça pour une raison principale, c'est qu'on pense vraiment que le meilleur moyen de faire développer nos activités et de faire manger nos produits, c'est quand même de les faire manger aux enfants qui d'abord sont les consommateurs de demain, mais qui sont les premières personnes à éveiller et aussi à protéger de tas de, pour être poli, de bouffe merdique qu'on a pu manger à travers les âges dans les cantines. Parce que ça a été quand même quelque chose d'assez sordide pendant longtemps. Et aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment, on a participé à des tas de projets, à des tas d'études avec le réseau, et on s'aperçoit vraiment que quand on fait des repas agri-local, les enfants, ils mangent tout, comme par hasard. Hein. Je pense que quand c'est bon, les enfants, ils ont faim quand même. Ça coûte pas plus cher, c'est de meilleure qualité et ça soutient l'agriculture locale.
C'est très bien. Et nous allons finir avec vos coordonnées pour les personnes qui veulent absolument vous joindre.
Oui, alors on a un super site internet qui est géré par Margot, qui s'appelle donc www.agriculture-poétique.com. Donc je le redis, www.agriculture-poétique.com. lafermebacotte-poétique.com. On a aussi un Facebook qui s'appelle La Ferme Bacotte, ainsi qu'un autre qui s'appelle L'Agriculture Poétique, et je crois qu'on a un Instagram, mais comme je ne suis pas assez connectée, je ne sais pas comment il s'appelle. Donc il vous faudra chercher.
Eh bien, merci beaucoup de votre accueil, et donc on vous souhaite une bonne continuation.
Ben, merci beaucoup, bonne continuation à vous, et merci pour votre visite.
Eh bien, nous avons fait une visite en plein air, entourée d'animaux extrêmement variés et très beaux. Les chèvres pyrénéennes sont très très jolies et nous vous invitons à venir les découvrir. Au revoir.
Au revoir.
C'était Les Landes, c'est ma nature, l'environnement dans notre région, avec Jeanne-Marie et Marie-Claire.
Les Landes, c'est ma nature, le lundi de 15h à 15h30, rediffusion en trois parties, le mardi, le mercredi et le jeudi à 13h sur MDM.